Radio Antigone.
18h15, bon début de soirée sur Radio Antigone. Voici Vacarme.
À vous d'inventer la vie qui va avec.
Radio Antigone.
Bonsoir, ici Antoine Ricard, ravi de vous retrouver dans Vacarme jusqu'à 19h en direct sur Radio Antigone, en direct et en vivant ou en rediffusion le lendemain matin du mardi au samedi de 12h15 à 13h. Merci d'être avec nous en ce froid mercredi soir. Émission ce soir consacrée en première partie au Rita Mitsuko et en deuxième partie au nucléaire iranien. L'interview culture avant 18h30, vous le savez, comme tous les soirs, juste après notre page musicale. C'est donc avec Rita Mitsuko et notamment Catherine Ringer, qui est donc l'une des rares artistes à avoir repris immédiatement la route après les différents confinements. Et puis en deuxième partie, notre décryptage de la soirée sur le nucléaire iranien, donc si l'accord de 2015 peut être ou non, sauvé malgré tout ce qui se passe. On verra ça donc après le journal de 18h30. Merci de nous retrouver donc sur Radio Antigone, à vous d'inventer la vie qui va avec. Et ce soir, j'ai décidé de vous passer un disque que j'apprécie tout particulièrement parce qu'il me parle. C'est pas si fréquent. Benjamin Biolay, Jeanne Chéral, Brandt Rhapsody, belle soirée, c'est Vacarme, 18h18. C'est mardi et tout va bien.
Faut qu'on se revoie. Tu sais, depuis mardi, j'ai beaucoup pensé à toi. Je suis joignable au 06-06-06-06-06 le soir, chez moi.
J'ai passé une nuit délicieuse, même si j'ai un peu la migraine. Tu es belle quand t'es odieuse. Je te dis à dans une semaine.
Je rêve de ton corps, je rêve de ta bouche. Je te veux près de moi, je veux que tu me touches. Je rêve de ta peau et de tes mains. Je ne pense qu'à toi, je bosse plus, je fous rien.
Mon amour, tu dormais si bien que j'ai pas osé te réveiller. Je travaille jusqu'à 7h20, si tu veux après on peut s'appeler. Je sais pas ce que tu fais ce soir, moi j'ai rien de prévu. Si t'as du travail, je te dis à plus tard et j'embrasse ton cul.
Je suis à toi, je te veux, je pense à nous. Tu es mon homme, tu es mon idéal. Je te désire tout le temps, partout. Tu es mon grand projet, je te suivrai n'importe où.
Parce que je t'aime. Parce que tu me rends heureux. Parce que des fleurs dans une cuisine, c'est joli. Je t'embrasse encore, encore, voilà aussi.
Mon amour, demain matin, rejoins-moi à l'aéroport, Orly, Terminal 2, 9h30. Ne pose pas de questions, prends juste ton passeport. Je t'aime, bonne nuit.
Chérie, il y a des trucs à manger dans le frigo. Je vais rentrer tard, sans doute, après le dernier métro. Tu vas pouvoir enfin te faire une soirée tranquille. Je t'ai apostrophe et là, il y a un cœur dessiné au stylo bille.
Je suis enceinte. Ta mère a téléphoné tout à l'heure. Je crois qu'elle n'a pas encore osé prévenir ta sœur. Ton père a refait une attaque cette nuit. Je t'aime, appelle-moi. Je pense à toi, je pense à lui.
Hier soir, j'ai oublié de te parler d'un truc important. Est-ce que tu peux m'appeler dès que tu te réveilles à n'importe quel moment? Ouvrez la parenthèse, important, mais pas grave. Fermez la parenthèse, je t'embrasse.
Mon amour, ne m'attends pas ce soir. J'ai pas mal de boulot et je risque de rentrer tard. Je crois qu'il doit rester une demi-pizza quelque part. Mais vérifie la date sur la boîte.
N'oublie pas qu'on dîne chez ma sœur. Si tu peux t'occuper du vin, tu seras au cœur. Car je risque d'être crack. Un peu plus loin, je te redonne l'adresse et les codes. 59 boulevard Ménilmontant, code AB1980.
La voisine a laissé un mot sur le palier. Le chat a gueulé toute la nuit dans l'escalier. S'il te plaît, en sortant, tu descendras la poubelle. Et pense à rappeler ta mère qui me harcèle.
Le mec du cap passe entre 7h15 et 9h15. Tâche de te réveiller. En plus gros, d'une langue différente. Un truc qui n'a aucun rapport. Style, numéro de passeport.
à payer EDF, Orange, abonnement Canal, plus le cadeau commun pour mon frère le week-end prochain. Je trouve plus le chéquier, c'est toi qui l'as, non? Si oui, mets-le en évidence dans le salon.
La réunion est à 19h30, précise à l'école. Le précise est souligné. F a encore appelé, il m'a parlé d'un chalet, je n'ai pas compris. Enfin, tu dois mieux savoir que moi. A plus. Le plus est une croix.
Casser 3 œufs, ajouter 1 demi-litre de lait, incorporer 100 grammes de farine progressivement. Ajouter d'un seul coup 50 grammes de matière grasse, tu mets moitié beurre, moitié margarine et tu mélanges.
Code réservation QWXXCJ. Mot de passe Casablanca. Départ Orly 9h47, retour le 23 à 7h15. Arrivée Paris 11h03, Charles de Gaulle. Terminal 3.
Une baguette, crevettes, 3 avocats, sopalin, tampons normaux, produits vaisselle, lait demi-écrémé bio, 6 œufs bio, sac poubelle 50 litres.
D'une écriture différente, de papier en tête. FXOR 75 LP, une gélule 3 fois par jour. Après Zolam, 0,50 mg, 6 prises par jour maximum. Puis une signature informe, suivie d'un caducé.
Je te rappelle que tu as un fils qui va à l'école tous les matins et qui aimerait bien prendre le petit déjeuner avec son père de temps en temps. Salut.
La visite est à 16h, il y a encore plein de trucs à toi dans le bureau du fond. Tu veux sans doute les récupérer. Appelle-moi, mon nouveau numéro 06 62 73 49 63.
Jeanne Chéral, Benjamin Biolay, à l'instant sur Radio Antigone, dans le titre Brandt Rhapsody, titre qui parle d'amour, vous l'aurez compris, bien évidemment. L'amour, quand ça vous prend, parfois faudrait partir en courant, comme dit l'adage. Ce titre est donc sorti sur l'album La Superbe, qui est d'ailleurs superbe, sans mauvais jeu de mots. L'invité culture 18h22 et elle fait partie des artistes qui ont repris la route après le déconfinement en France. Catherine Ringer sillonne de moult festivals avec le Victoire d'Erita Mitsuko, le groupe qu'elle formait avec son compagnon le regretté Fred Chicha, disparu il y a plus de 14 ans maintenant. Erita Mitsuko, une formation inclassable entre influence latino, rap, pop, rock, et parmi les plus populaires de France. Alors justement, Sébastien Gédor l'a rencontré et nous en fait profiter tout de suite sur Radio Antigone. C'est Vacarme, belle soirée.
C'est comme ça.
Bonjour Catherine Ringer.
Bonjour RFI.
Le groupe américain des Sparks avec qui vous avez joué a dit que les Erita Mitsuko étaient d'une certaine manière l'incarnation de la France par leur côté rebelle. Vous vous retrouvez dans cette définition, même si vous n'aimez pas beaucoup les définitions?
Si, je trouve que c'est bien joué. Le côté de ne pas vouloir faire, de ne pas se laisser faire par l'habitude, de ne pas se laisser faire par les choses soi-disant imposées contre lesquelles on serait pas, avec lesquelles plutôt on ne serait pas d'accord. Bah écoutez, je suis flatté qu'ils disent ça, oui.
Les histoires d'amour,
les histoires d'amour,
les histoires d'amour finissent mal,
les histoires d'amour finissent mal.
En général,
les histoires d'amour finissent mal,
en général.
Catherine Ringer chante l'Erita Mitsuko, c'était d'abord un spectacle à la Philharmonie, une tournée. Vous aviez des doutes sur la pérennité du répertoire ou pas du tout?
Non, je sais que c'est un répertoire qui est solide et qui peut durer encore un moment. Je ne sais pas ce que ce sera au 23e siècle. Il n'y aura peut-être pas de... Vous voyez, mais les auditeurs, le public m'en parlent en me disant « mais c'est vraiment des musiques qui passent le cap des dizaines d'années, disons. Voilà. »
Peut-être parce que ce sont des musiques qui sont rétives à toute catégorisation. Votre voix, par exemple, elle puise aussi bien dans le lyrique que dans le rap, parfois, Catherine Ringer.
Je crois qu'on peut être mélangé, en fait, ça fait partie maintenant de... Même en cuisine, on voit bien, dans la cuisine internationale, que les mélanges se font, les burgers basques, les mélanges japonais-africains, tout en gardant ses racines, ce qui est quand même très important. Et je pense qu'on fait des chansons pop, un peu comme on disait dans les années 70, matinées de plein de choses, d'influences diverses, sont comme des épices, en fait. Et aussi la liberté et l'envie, si on a envie de se prendre un rythme de rap, de pouvoir le faire. Du moment que c'est beau et qu'on trouve que ça tient la route.
Ouh, on n'a pas que de l'amour.
Catherine Ringer chante Rita Mitsouko, ce spectacle, ça permet aussi de faire ressortir la diversité des chansons d'Rita. Il y a plus de 80 titres, je crois, et donc sur scène, vous allez au-delà des tubes.
Bah oui, parce qu'on chante différentes chansons, des très connues, des moins connues. Comme cela, on s'est arrêté pendant la pandémie, on avait fait presque un an de tournée avec ce répertoire, on a enlevé certaines chansons, on en a remis d'autres. Donc oui, ce sont des chansons très, très variées, ça c'est vrai.
Est-ce qu'aujourd'hui vous constatez qu'il y a un nouveau public qui vient vous écouter, un public plus jeune et des gens aussi qui ont suivi l'Hérita pendant toutes vos années de carrière avec Fred Chichin?
Oui, il y a à la fois les gens qui nous ont écoutés depuis pratiquement nos débuts, ceux qui nous découvrent parmi les jeunes, il y a ceux dont les parents nous écoutaient, puis je pense qu'il y a aussi quelques-uns comme ça qui nous découvrent. On a un public assez mélangé.
Vous avez chanté Le Petit Train en référence au train qu'a pris votre père sur le chemin de la déportation. Quand vous avez chanté Marcia Baila en référence au cancer de cette grande danseuse, vous avez l'impression que vous avez été un des premiers groupes à libérer la parole, c'est-à-dire à faire danser les gens sur des sujets tragiques, Catherine Ringer?
Ça, je ne me rends pas compte, en fait, parce que je n'ai pas assez étudié l'histoire musicale et de la chanson. Mais je crois que dans les chansons de blues, de jazz, il y a énormément de sujets tristes quand même dans la chanson française.
C'était pas aussi dansant.
Emporté par la foule de Piaf. La fin est tragique aussi, non? Mais on peut danser dessus aussi.
Merci Catherine Ringer.
Merci RFI. Bonjour à tout le monde de par le monde.
Oh Marcia, elle danse sur du satin de la rayon du polystyrène expansé à ses pieds. Et Marcia danse avec des jambes aiguisées comme des couperets, de flèches qui donnent des idées, des sensations. Oh Marcia, elle est maigre, belle en scène, belle comme à la ville. La voir danser me transforme en excité. Comme sa bouche est immense, quand tu souris et quand tu ris, je ris aussi. Tu aimes tellement la vie, mais Marcia, quelle danse froid que l'on sent.
L'invité culture tous les soirs dans le 18-19 de Radio Antigone. Avant le point sur l'actualité, un petit point météo. Demain, il va faire moche, encore une fois, de la pluie. Même si l'après-midi, sur le Berry, les éclaircies devraient revenir. Température maximale entre 4 et 8 degrés dans le Berry. Merci d'avoir choisi Radio Antigone. Très belle fin d'après-midi à tous.
Radio Antigone.
À vous d'inventer la vie qui va avec.
Radio Antigone.
Vacarme, deuxième partie. Merci de nous retrouver sur Radio Antigone. 18h32, nous sommes le mardi 30 novembre. Ou pour ceux et celles qui écoutent la rediffusion, nous sommes le mercredi 1er décembre. Et oui, déjà. Dans quelques instants, on va parler de l'accord de 2015 du nucléaire iranien qui est peut-être compromis. Car après 5 mois d'interruption, les négociations pour sauver l'accord international de 2015 sur le nucléaire ont repris à Vienne. On en parle dans quelques instants avec Héloïse Fayet, chercheur au Centre des études de sécurité de l'IFRI, et Clément Terme, chercheur associé à l'Institut universitaire de Florence, et associé également à l'Institut Razana. Ce sera juste après une très jolie page musicale dans Vacarme. Voici French 79 et Vincent Delerme, Louise et Thelma, version française. Bon début de soirée sur la radio Vif.
Apparaissent, disparaissent et ne reviendront pas. Un pavillon, une rue, une piscine en plastique bleu comme ça. Et en arrivant sur le quai, c'est juillet, c'est Marseille, le soleil est blanc et la peau colle sous les vêtements. On me voit. Dans des appartements, dans des soirées fenêtres ouvertes au vent, couloir d'entrée et contre le mur se plaquer, atteindre la pièce à côté. Parler à une fille, parler trop fort, elle répondra à une phrase que je n'entendrai pas. Elle redira la phrase en se penchant vers moi, en penchant tout son corps. Et ce serait tellement simple de se parler en fin d'après-midi derrière le port. Derrière le port. On me voit sur une aire d'autoroute, devant la machine à café, le distributeur automatique, et j'ai roulé tellement. Alors les bras en l'air, les étirements, pour ressembler à une idée que je m'étais faite il y a longtemps. Sur la route, l'asphalte est bouillant, alors l'image tremble devant et ça ressemble à tous ces plans. À tous ces films que je voyais à 17 ans. Il y a encore un trajet à faire. Il y aura la nuit en arrivant là-bas. Et j'espère encore que ça ressemblera à Jim Jarmusch, ou bien à Louise et Thelma. Ou bien à Louise et Thelma. On me voit. On me voit. On me voit avançant sur des rochers, faisant comme si c'était encore l'été. Tous les gens sont partis, les bronzages disparaissent à Paris. On me voit rester par ici. Ici on me connaît, on sait que j'ai un bateau par là. Un bateau par là. Sur des rochers on me voit. On m'a vu les cheveux trempés dans cette rue, à l'époque où j'attendais en bas, où j'espérais cette histoire-là. J'attendais des heures chaque fois, et parfois sans savoir pourquoi. Elle venait, elle m'embrassait, on s'en allait dans la nuit et parfois elle changeait d'avis. Alors parfois on m'a vu, les cheveux trempés dans sa rue. On ne me voit pas. Dans cette chambre, derrière les volets, la journée qui avance. Et j'écris la danse, depuis toujours, comme ces dimanches adolescents. Quand tout le monde allait faire un tour, vers la forêt, vers les étangs. Et je restais toujours dedans. Moi je restais. Mes synthétiseurs japonais. Et aujourd'hui, 20 ans après, je reste encore. Quand tout le monde est parti dehors. Et c'est juste à cet instant-là. Thank you.
Radio Antigone. Radio Antigone.
Décryptage. Clémentine Pavlotsky.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Décryptage. On s'intéresse ce soir à la reprise des négociations pour sauver l'accord international de 2015 sur le nucléaire iranien. De nouvelles discussions se sont ouvertes aujourd'hui à Vienne en Autriche après 5 mois d'interruption. Ce texte offrait initialement à Téhéran la levée d'une partie des sanctions qui étouffent son économie. Et en échange, l'Iran s'était engagé à réduire drastiquement son programme nucléaire. Mais cet accord s'est progressivement délité après la décision des États-Unis de s'en retirer. C'était en 2018, sous la présidence de Donald Trump. Alors que faut-il attendre de ces nouvelles négociations? L'accord de 2015 peut-il encore être sauvé? Et que se passera-t-il si aucun compromis n'est trouvé? On en parle pendant 20 minutes avec nos invités. Bonsoir Héloïse Fayet.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheuse au Centre des études de sécurité de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vos travaux portent plus particulièrement sur les questions de prolifération et de dissuasion. Et nous sommes également en ligne avec Clément Terme. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur associé à l'Institut universitaire de Florence, également associé à l'Institut Rassana et chargé de cours à Sciences Po Paris. Je précise que vous êtes l'auteur du livre « L'Iran et ses rivaux, entre nations et révolutions » paru aux éditions Passé Composé. Alors très concrètement, Héloïse Fayet, quel est l'objectif de ces négociations qui sont ouvertes aujourd'hui en Autriche ?
Tout d'abord, l'objectif est double. Soit il s'agit de sauver, comme vous le disiez, ce qu'il reste du JCPOA. Donc, comme vous l'avez rappelé depuis
Alors, le JCPOA, c'est l'acronyme anglais pour désigner ce fameux accord sur le nucléaire iranien signé en 2015.
Oui, tout à fait. Donc, soit il s'agit de sauver ce qu'il peut rester du JCPOA, donc depuis la sortie des Américains en 2018 et puis l'interruption des négociations entre juin et aujourd'hui, sachant qu'il y a un obstacle majeur à cette reprise des négociations et au retour au JCPOA de 2015, c'est évidemment que le programme d'enrichissement iranien s'est poursuivi depuis 2018 et encore plus depuis l'arrivée d'Ebrahim Raisi, donc le nouveau président iranien, donc à la présidence en juin 2021. Donc les chances de revenir au JCPOA comme il était en 2015 sont très faibles, mais il est possible éventuellement de conclure un nouvel accord et c'est probablement le sujet des discussions qui commencent aujourd'hui à Vienne.
Alors les participants à ces négociations, ce sont bien sûr l'Iran d'un côté et en face les signataires de cet accord de 2015, donc la Chine, la Russie, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et puis les États-Unis qui, eux, participent indirectement à ces négociations. On y reviendra dans un instant. Mais d'abord, Clément Terme, qu'attendent chaque partie prenante, l'Iran d'un côté et les autres pays signataires de l'accord, de ces négociations ?
Alors oui, il y a des perceptions divergentes. Il y a aussi les perceptions des pays de la raison qui sont absents directement des négociations, mais qui sont désormais consultés par l'administration américaine. Je pense notamment à l'État d'Israël, à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, qui ont un intérêt pour ce processus de négociation. Donc les parties prenantes à l'accord, par exemple l'Iran, lui, souhaite une levée des sanctions. Donc la surenchère nucléaire dont a parlé ma collègue Louise est liée, si vous voulez, à cet objectif de créer un rapport de force, de faire une sorte de chantage pour extorquer des concessions sur le plan économique. Et en même temps, il y a une crédibilité à avoir aussi du côté iranien, à savoir que plus on développe le programme nucléaire, par exemple avec l'enrichissement à 60%, plus il est difficile de continuer à prétendre avoir des ambitions strictement pacifiques. Donc, pour résoudre cette crise de confiance entre les parties présentes, il est préférable, je pense, d'envisager une désescalade progressive avec d'abord un accord intérimaire. Parce que, comme ça a été dit, la situation nucléaire de l'Iran est différente aujourd'hui que celle de 2015. Et aussi, la levée des sanctions a montré qu'elle était susceptible de varier en fonction des administrations américaines. Et surtout que les Européens n'étaient pas capables de résister aux pressions américaines qui ne représentait pas une alternative, si vous voulez, pour l'économie iranienne aux relations avec les États-Unis. Donc, pour que l'accord soit de long terme, il faudrait un accord global qui inclut, au-delà du nucléaire, la question régionale, la question des droits de l'homme, la question balistique et des drones. Donc ça, ce n'est pas envisageable à court terme. Donc, à mon sens, un accord de courte durée intérimaire pourrait aussi satisfaire la Russie et la Chine, qui ont besoin d'une certaine levée des sanctions pour développer leur coopération avec la République islamique d'Iran.
Alors je voudrais justement qu'on écoute le président iranien Ebrahim Raisi. Ce sont des propos qui remontent au mois de septembre, lorsque les pays occidentaux le pressaient de répondre rapidement, de reprendre rapidement justement les négociations. Écoutez sa réponse, c'était lors d'une allocution télévisée et on commente juste après.
Nous avons certainement le dialogue, les discussions diplomatiques à l'ordre du jour du gouvernement, mais pas sous pression. Ces pressions, accompagnant les discussions, n'ont donné aucun résultat par le passé. Les Américains et les Européens en ont fait l'expérience. Nous ne reculerons pas d'un iota sur les intérêts du peuple iranien.
Voilà, on entend le président iranien nous dire « Nous ne reculerons pas d'un iota sur les intérêts du peuple iranien ». On comprend bien, en écoutant ce que nous disait à l'instant Clément Terme, que l'enjeu de ces négociations pour le pouvoir iranien, c'est la levée de ces sanctions qui étouffent son économie. Héloïse Fayet, concrètement, à quelles concessions le pays est-il prêt? Est-il d'ailleurs prêt à faire des concessions? Parce que pour l'instant, la position du dirigeant paraît plutôt intransigeante.
A priori, non, le gouvernement iranien n'est prêt à aucune concession. Et même quand il voit sa population qui souffre de la soif ou de mauvaises conditions économiques, le gouvernement iranien n'hésite pas à réprimer fortement la population. On l'a encore vu récemment avec des manifestations en Ispahan qui ont été largement réprimé à cause du détournement de certaines rivières, me semble-t-il. Mais d'ailleurs, c'était vraiment le mantra du gouvernement iranien. Et encore ce matin, le ministre des Affaires étrangères, Abdollahian, s'est exprimé. Rappelons qu'il est l'ancien négociateur du JCPOA, donc en 2015. Il demande et il martèle une levée vérifiable des sanctions et surtout des garanties de conservation pour être certain que le retrait américain n'est à nouveau pas lieu.
Et alors cette levée des sanctions, a priori, il n'en est pas question, Héloïse Fayet, pour les États-Unis. Est-ce que ça ne risque pas, alors même si les États-Unis participent indirectement à ces négociations, est-ce que ça ne risque pas justement de peser sur ces négociations, cette intransigeance affichée d'une part par l'Iran et puis d'autre part aussi par les États-Unis?
Là, on peut imaginer éventuellement une réflexion américaine qui consisterait à dire on va lever partiellement peut-être une toute petite partie des sanctions pour en tout cas essayer de sauver ce qu'il reste des accords. Mais l'administration Biden, en tout cas, s'est montrée assez inflexible sur le sujet. Donc ça reste à voir en fonction des déclarations américaines et en fonction effectivement aussi de la volonté européenne. Donc vous l'avez rappelé, les États-Unis ne font plus partie des négociations à Vienne, donc des volontés européennes de se plier ou non aux interjections américaines.
Clément Terme, est-ce qu'il n'y a pas un manque de crédibilité de la part des États-Unis? Est-ce qu'ils peuvent vraiment imposer leurs décisions dans ces négociations, sachant que ce sont eux qui ont fait voler ce pacte en éclats? Alors certes, c'était sous la présidence de Donald Trump, on est actuellement sous la présidence de Joe Biden, mais est-ce que ça ne peut pas se retourner un petit peu contre les États-Unis, cette situation?
Alors je dirais que oui, la question iranienne est très sensible aux États-Unis, c'est une question de politique interne, donc même dans l'hypothèse d'une désescalade progressive, avec un gel par exemple de la tension actuelle, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'escalade nucléaire côté iranien et qu'il n'y ait pas aussi d'ajout de sanctions. Donc on pourrait imaginer dans un premier temps un arrêt de l'escalade actuelle, voire un dégel très limité avec un retrait par exemple de l'enrichissement d'uranium à 60% côté iranien et côté américain une levée partielle des sanctions sur le pétrole. Donc on peut imaginer des escalades, mais l'administration Biden ne va pas sacrifier son capital politique pour un interne, je veux dire, vis-à-vis du Congrès américain, pour un deal avec la République islamique, qui est un régime qui pose problème, je l'ai dit, au-delà de la question nucléaire. Donc c'est vrai que c'est une question extrêmement sensible. Sur la crédibilité des États-Unis, malheureusement, je dirais que c'est plutôt la crédibilité de l'Europe qui a été mise à mal, parce que les Américains assument leur changement de ligne politique, mais l'Europe a maintenant une position un peu bureaucratique, on pourrait dire, c'est-à-dire de soutien formel au JCPOA, alors que presque toutes les entreprises ont quitté le marché iranien en 2018 sur l'ordre de l'administration américaine. En fait, c'est là où le bas blesse. Donc, si vous voulez, les puissances qui, aux yeux de Téhéran, ont le plus de crédibilité sont la Russie et la Chine, parce qu'elles ont une capacité de résistance économique plus grande face à une future, par exemple, administration républicaine aux États-Unis. Et en même temps, elles n'ont pas la confiance et puissance médiatrice potentielle des États-Unis. Et l'Europe qui a la confiance des États-Unis n'a pas la confiance de la République islamique. Donc on est dans des négociations indirectes. Les États-Unis participent indirectement à ces négociations. Mais si vous voulez, c'est quand même la ligne américaine qui prédomine parce qu'elle s'applique ce dont a besoin l'Iran, c'est-à-dire une levée partielle des sanctions. La clé est à Washington. Elle n'est ni à Bruxelles, ni à Pékin, ni à Moscou.
Alors avec la reprise de ce dialogue, le programme nucléaire iranien se retrouve à nouveau sous le feu des projecteurs. Très concrètement, Héloïse Fayet, où en est le pays ?
Alors, il faut dans ce cas sortir les chiffres et c'est potentiellement un petit peu technique. Donc selon les estimations de l'AIEA, donc qui est l'Agence internationale de l'énergie atomique et qui mène bon gré mal gré des études sur le terrain en Iran pour avoir accès aux centrales nucléaires, même si ça c'est de plus en plus compliqué d'avoir accès aux sites d'enrichissement.
Oui, parce qu'a priori l'Iran refuse pour l'instant, enfin depuis quelques temps, de coopérer avec l'AIEA.
Tout à fait, c'est cela. Et même l'AIEA s'est plainte de plus en plus de fouilles, par exemple, sur ses inspecteurs, donc de fouilles corporelles qui ont des difficultés à avoir accès aux sites d'enrichissement ou également des sites d'enrichissement qui n'avait pas été déclaré. Donc là, les derniers chiffres de début novembre estiment que la quantité d'uranium enrichi à 60% en Iran est de 17,7 kg, ce qui représente une nette augmentation par rapport déjà à août et puis les mois précédents. Et puis on a une masse, on a à peu près 113 kg d'uranium enrichi à 20%, sachant que la limite dans le JCPOA qui avait été exprimée en 2015, c'était 3,67%. Donc on est largement au-dessus des seuils. Mais rappelons que l'uranium de qualité militaire, donc celui qui peut être utilisé pour produire une bombe, est par contre là à un enrichissement de 85%. Il y a donc encore un petit peu de marge.
Très concrètement, Héloïse Fayet, ça veut dire que l'Iran aujourd'hui n'est pas encore en mesure de fabriquer une bombe nucléaire ou s'en approche ?
Alors, on considère, et ça c'est je pense que mon collègue Clément Terme sera d'accord avec moi, que l'Iran est quasiment un état du seuil. Et c'est-à-dire qu'en fait, il aura besoin d'une petite impulsion politique qui pour l'instant n'est pas présente pour atteindre effectivement la bombe en elle-même, enfin la quantité de matériel suffisamment enrichi pour avoir une bombe. Mais après, il faut la mettre sur une arme, la tester, et ça peut encore prendre 1, 2, voire 3 ans selon les spécialistes.
Alors Clément Terme, lorsque l'Iran avait signé cet accord international en 2015, le pays s'était engagé à réduire drastiquement son programme nucléaire. Très concrètement, qu'est-ce que ça impliquait cet engagement ?
Tout simplement, l'Iran avait choisi à l'époque de faire le pari du développement économique, de donner la priorité, si vous voulez, à un certain enrichissement de la population, en tout cas de ses clientèles, parce que le président Raisi, dont vous avez cité une déclaration précédemment, dit qu'on confond les intérêts du régime et les intérêts du peuple. Donc il y avait cette idée finalement de dépasser cette dialectique entre l'intérêt national et l'intérêt du régime. Parce que la République islamique, depuis sa naissance, en raison de son anti-américanisme idéologique, ne défend pas les intérêts nationaux économiques du pays. Donc pour le régime iranien, très clairement, le programme nucléaire est une monnaie d'échange, un moyen, un marchandage pour renforcer la stature, si vous voulez, internationale du régime et pour renforcer sa légitimité, sa crédibilité en interne. Même si c'est au prix de l'appauvrissement du pays et de crises sociales, écologiques qui se multiplient ces derniers mois, ces dernières années. En même temps, un développement macroéconomique du pays dans une économie pétrolière ne veut pas dire non plus une réduction rapide de la pauvreté, la réduction des inégalités. Donc la paupérisation que connaît l'Iran aujourd'hui est à la fois la conséquence du retrait américain de l'accord sur le nucléaire, mais d'abord le résultat de la mauvaise gestion en interne. Donc l'idée en 2015, c'était de dépasser la crise de 2009 du mouvement vert, de la révolution des classes moyennes, mais ce dépassement n'a pas été possible en raison des limites qui a été mis à l'accord à la fois aux États-Unis et en République islamique, c'est-à-dire de limiter le champ de l'accord au nucléaire. On voit aujourd'hui que pour l'Iran, un accord qui se limite à cette question-là ne permettra pas une normalisation des relations non seulement avec les pays de la région, mais aussi avec les grandes entreprises occidentales. Parce que l'Iran a besoin de ces investissements, mais ces investissements s'inscrivent dans la longue durée, peut-être 10 ans, 15 ans pour les projets de pétrole, comme Total en avait à l'époque. Et ça, ce n'est pas atteignable avec un accord intérimaire. Mais... Et donc, dans la perspective de la fin de l'administration Biden et de l'alternance possible aux États-Unis, il faudrait en fait une normalisation des relations diplomatiques entre l'Iran et les États-Unis, donc un changement de régime ou un changement dans la nature du régime iranien pour assurer cette défense des intérêts économiques nationaux du pays. Pour l'instant, ceux qui négocient côté iranien sont des bureaucrates idéologues qui souhaitent la survie du régime. Donc si la survie du régime passe par un accord intérimaire, on va aller vers un accord intérimaire. Mais vous imaginez le coût politique aux États-Unis pour l'administration Biden.
Alors justement,
c'est un régime justement... qui est contesté par les manifestants de manière quasiment quotidienne aujourd'hui, et notamment par les classes populaires, parce qu'aujourd'hui ce sont les classes populaires.
Justement, Clément Terme, vous parlez de l'administration Biden. En octobre, elle a prévenu que toutes les options étaient sur la table pour éviter justement que l'Iran ne devienne une puissance nucléaire. Je vous propose qu'on écoute tout de suite le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken.
Nous allons examiner toutes les options pour traiter le défi posé par l'Iran. Nous continuons de penser que la diplomatie est le moyen le plus efficace pour ça. Mais pour la diplomatie, il faut être deux. Et nous n'avons pas eu de volonté iranienne de le faire jusqu'à présent.
Décryptage sur RFI.
Clémentine Pavlotsky.
Voilà Clément Terme, c'est une façon pour les États-Unis de laisser planer le doute sur une possible menace militaire. Vous pensez que les États-Unis, si les négociations qui ont débuté aujourd'hui échouent, ne débouchent sur aucun compromis, les États-Unis peuvent fortement envisager l'option militaire vis-à-vis de l'Iran ?
Alors il y a plusieurs options dans la boîte à outils, si vous voulez, qui est à la disposition des États-Unis pour lutter contre, pour gérer plutôt les ambitions nucléaires iraniennes. Il y a l'intervention militaire, donc c'était une question qui a été évoquée notamment en 2012, avec les menaces à l'époque contre les installations nucléaires iraniennes. Mais c'est une solution qui contrevient, si vous voulez, à l'idéologie dominante dans les milieux stratégiques américains sur la fatigue des interventions militaires. Ensuite, vous avez les opérations clandestines, les assassinats ciblés, les attaques cyber. Donc il y a des moyens quand même plus discrets de confrontation qui existent, qui, à mon avis, seront privilégiés avant d'envisager cette option militaire, puisque l'administration Biden aussi évoque cette option pour satisfaire les alliés régionaux des États-Unis, notamment Israël, parce qu'il y a le risque aussi d'une initiative israélienne contre
effectivement,
les installations nucléaires.
Israël, ces derniers jours, a mené, il faut le rappeler, des manœuvres militaires dans la mer Rouge avec les Émirats arabes unis et le Bahreïn, ce qui a fait craindre effectivement possible frappe israélienne contre l'Iran en cas d'échec diplomatique sur cette question du nucléaire iranien. Héloïse Fayet, je me tourne vers vous. Plusieurs sources diplomatiques parlent aussi d'un possible accord provisoire. Concrètement, à quoi est-ce qu'il pourrait ressembler cet accord provisoire ?
Alors, comme on l'a expliqué, ça peut être effectivement un accord intérimaire ou provisoire qui porterait soit sur, techniquement, donc les restrictions du programme nucléaire iranien, qui pourrait s'engager à arrêter son enrichissement. Après, se pose effectivement la question de que faire de l'uranium hautement enrichi qui ne pourrait pas être racheté par les pays voisins à cause du traité de non-prolifération. Mais un accord intermédiaire ou un accord global pourrait porter également, comme l'a dit Clément Terme, sur le programme balistique iranien, donc celui qui permettrait d'emmener la bombe vers sa cible, ou sur une réflexion également sur la puissance iranienne et la présence iranienne dans les pays voisins, donc que ce soit les milices chiites en Irak ou en Syrie.
Et pour conclure, il nous reste une trentaine de secondes, Héloïse Fayet. Certains analystes disent que l'Iran cherche aujourd'hui à gagner du temps pour justement accélérer ses avancées atomiques. Est-ce que c'est un scénario qui vous semble probable ?
Je pense qu'ils ont déjà effectivement gagné beaucoup de temps entre juin et maintenant, sous le prétexte qu'ils avaient besoin de revoir ligne par ligne le JCPOA de 2015, donc suite à un nouveau gouvernement. Il est probable effectivement qu'ils continuent à gagner du temps, mais il faudra une impulsion politique pour arriver vraiment à la bombe.
Merci beaucoup, Héloïse Fayet, chercheuse au Centre des études de sécurité de l'IFRI, spécialiste des questions de prolifération et de dissuasion. Merci également à vous, Clément Terme, chercheur associé à l'Institut universitaire de Florence, également associé à l'Institut Rassana et chargé de cours à Sciences Po Paris. Très belle soirée à tous sur RFI.
Priorité santé, Carole.
Et merci à vous, Clémentine. Merci, Clémentine, pour ce décryptage sur l'actualité géopolitique bien nécessaire en cette période fort compliquée. Dans un instant sur notre antenne, un nouveau journal complet. Il y a surtout toute l'actualité de... qui est quand même relativement chargée, l'actualité politique internationale fort chargée. Ici, Antoine Ricard, au nom de toute la rédaction et de toute l'équipe, merci d'avoir été avec nous ce soir. Cette émission sera rediffusée demain aux alentours de 12h15. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver sinon en direct demain soir aux alentours de 18h-18h15. Bonne soirée sur Radio Antigone, merci.
Tous les podcasts de Radio Antigone sont à retrouver sur radioantigone.fr et toutes les plateformes de podcasts.